Mais si tu, déjà aujourd'hui très tard, c'est déjà très tard aujourd'hui. Si tu lisais une phrase où nous faisions méditation.
Oui, bien sûr. Bon. Après, il faut aller jusqu'au bout. Là, il y a une seule phrase. Et puis après, c'est... Tiens. Voilà, il y en a.
Ici, on commence juste.
C'est là, oui. C'est deux choses. Après, n'est-ce pas, c'est la liberté, puis la liberté, puis la liberté. Il y en a trois. On peut lire ces deux-là. L'agitation fébrile et le prompt épuisement de notre être actif et de ses instruments d'action sont un signe de la nature que le calme est notre vrai fondement et que l'excitation est une maladie de l'âme. La stérilité et la monotonie du simple calme sont aussi le signe de la nature que le jeu des activités sur cette ferme base et ce qu'elle attend de nous. Dieu joue à jamais et n'est pas troublé. Les limitations du corps sont un moule. L'âme et le mental doivent se déverser en elle, les briser et les refaçonner constamment en de plus vastes limites jusqu'à ce que soit trouvée la formule d'accord entre cette finitude et leur propre infinité. Personne n'a de question. Personne n'a de question. Tu n'as pas de question.
Les limitations du corps sont un monde.
Oui.
Alors, mon monde.
Qu'est-ce que ça veut dire, le mot? Si vous n'aviez pas de corps avec une forme précise, tant que vous n'êtes pas une individualité formée, entièrement consciente et ayant ses qualités propres, vous seriez tous fondus les uns dans les autres et on ne pourrait pas vous distinguer. Même en allant seulement un petit peu au-dedans, dans l'être vital le plus matériel, il y a un tel mélange entre les vibrations des uns avec les vibrations des autres que c'est très difficile de vous distinguer. Mais si vous n'aviez pas de corps, ce serait une sorte de bouillie inextricable. Par conséquent, c'est la forme, cette forme précise et rigide, en apparence, du corps qui vous distingue les uns des autres. Alors, cette forme sert de moule. Tu sais ce que c'est qu'un moule? Oui. On verse quelque chose dedans, sous une forme liquide ou semi-liquide, et quand ça refroidit, on peut casser le moule et on a l'objet dans une forme précise. Eh bien, cette forme du corps sert de moule pour que les forces vitales, les forces mentales prennent là-dedans une forme précise pour que vous deveniez une individualité séparée de l'autre. Ce n'est que petit à petit, très lentement, par les mouvements de la vie et par une éducation plus ou moins attentive et bien poursuivie, que vous commencez à avoir des sensations qui vous sont personnelles, des sentiments qui vous sont personnels et des idées qui vous sont personnelles. Une mentalité individualisée est une chose extrêmement rare et qui ne se produit qu'après une longue éducation. Autrement, c'est une espèce de courant de pensée qui passe à travers votre cerveau, et puis le cerveau d'un autre, et le cerveau d'une multitude. Et tout ça, c'est en perpétuel mouvement, et ça n'a pas d'individualité. On pense ce que les autres pensent ce que d'autres pensent, et tout le monde pense comme ça dans un mélange parce que on a des courants, des vibrations de pensée qui passent de l'un à l'autre. Si vous vous regardez attentivement, vous apercevrez bien vite qu'il y a très peu de pensées en vous qui vous soient personnelles. D'où les tirez-vous? De ce que vous avez entendu dire, de ce que vous avez lu, de ce qu'on vous a enseigné. Et combien y en a-t-il là-dedans qui sont le résultat de votre expérience propre, de votre réflexion, de votre observation purement personnelle. Pas beaucoup. C'est seulement ceux qui ont une vie intellectuelle intense, qui ont l'habitude de réfléchir, d'observer, de mettre les idées ensemble, qui peu à peu se forment une individualité mentale. La plupart des gens, et non pas seulement de ceux qui sont sans culture, mais même de personnes qui lisent, peuvent avoir dans leur tête les idées les plus contradictoires, les plus opposées, les plus contradictoires, sans même s'apercevoir de la contradiction. J'ai eu de nombreux exemples comme ça, de personnes qui chérissaient des idées et même avaient des opinions politiques, sociales, religieuses, sur tous les domaines soi-disant supérieurs de l'intelligence humaine, qui avaient des opinions absolument opposées sur le même sujet et qui ne s'en apercevaient pas. Et si vous vous observez, vous verrez que vous avez beaucoup d'idées qui devraient être liées par une suite d'idées intermédiaires provenant d'un élargissement considérable de la pensée pour que ces idées ne cohabitent pas d'une façon absurde. Ce qui fait que avant qu'une individualité soit vraiment individuelle, qu'elle ait ses qualités propres, il faut qu'elle soit contenue dans un vase, autrement elle se répandrait comme de l'eau et ça n'aurait plus de forme du tout. C'est comme des gens à un degré assez inférieur ne se connaissent que par le nom qu'ils portent. Ils pourraient se distinguer de leurs voisins que par leur nom. On leur demande « Qui es-tu ?»« Je m'appelle comme cela. » Un peu plus tard, il y en a qui vous disent le nom de leur occupation ou de leur qualité principale. Il y en a dit qui es-tu ? Je suis un peintre. Mais à un certain niveau, la seule réponse, c'est le nom. Et qu'est-ce que c'est que le nom ? C'est rien qu'un mot, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Rien. Tout un ensemble de choses indéfinies qui ne représentent pas du tout une personne séparée du voisin. Il n'est séparé que parce qu'il a un autre nom. Si tout le monde portait le même nom, on aurait beaucoup de difficultés à se distinguer les uns des autres. Je vous lisais dans le livre, l'autre jour, ce livre sur l'aviation. Cet esclave qui, lorsqu'on on lui posait une question, il répondait toujours son nom, n'est-ce pas? Mais déjà, c'était un progrès sur tous ceux à qui on donnait le nom d'esclave, qui pour tous était le même, et qu'ils acceptaient tous d'avoir le même nom et par conséquent d'être la même personne. Parce qu'ils n'avaient pas d'individualité du tout, ils n'avaient qu'une occupation. Et cette occupation étant la même pour un nombre successif d'esclaves, ils avaient tous le même nom. On vit par une sorte d'habitude à peine semi-consciente. On vit, on n'objective même pas ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. On le fait par habitude. Tous ceux qui sont nés dans un certain milieu, dans un certain pays, prennent automatiquement les habitudes du milieu, non seulement des habitudes matérielles, mais des habitudes de pensée, des habitudes de sentir et des habitudes d'agir. Ils le font sans se regarder faire, tout à fait naturellement. Et si on leur fait remarquer, ça les étonne. Au fond, on a l'habitude de dormir, de parler, de manger, de bouger. Et on le fait comme une chose tout à fait naturelle, sans être étonné ni du pourquoi ni du comment. Et bien d'autres choses. Tout le temps on fait des choses automatiquement, par habitude. On ne se regarde pas faire. Et alors quand on vit dans une certaine société, on fait automatiquement ce qu'on a l'habitude de faire dans cette société. Et si quelqu'un commence à se regarder faire, se regarder sentir et se regarder penser, il semble comme une espèce de monstre phénoménal en comparaison avec le milieu dans lequel il vit. Par conséquent, l'individualité n'est pas du tout une règle, c'est une exception. Et si vous n'aviez pas cette espèce de sac dans une forme spéciale, qui est votre corps extérieur et votre apparence, comme je dis, on ne pourrait presque pas vous distinguer les uns des autres. Une individualité est une conquête. Et, comme il est dit ici, cette première conquête n'est que la première étape. Et une fois que vous avez réalisé en vous quelque chose qui est commun à être indépendant et conscient personnellement, alors ce que vous avez à faire, c'est de briser la forme et d'aller plus loin. Par exemple, si vous voulez progresser mentalement, il faut briser toutes vos formes mentales, toutes vos constructions mentales pour pouvoir en faire d'autres. Alors d'abord, il faut un travail formidable pour s'individualiser, puis après, il faut démolir tout ce que l'on a fait pour pouvoir progresser. Mais comme vous ne vous regardez pas faire et que c'est l'habitude, naturellement pas partout, mettons ici, c'est l'habitude de travailler, de lire, de se développer, d'essayer de faire quelque chose, justement de se construire un peu, on le fait tout naturellement, et sans même, comme j'ai dit, sans même se regarder faire. Et c'est seulement quand ces formes extérieures entrent dans une friction réciproque que vous commencez à sentir que vous êtes différent des autres. Autrement, vous êtes celui-ci ou celui-là, d'après le nom que vous portez. C'est seulement quand il y a une friction, quand il y a quelque chose qui ne va pas et que vous vous apercevez d'une différence, alors vous voyez que vous êtes différent. Autrement, vous n'apercevez pas. Et vous n'êtes pas. En fait, vous l'êtes très peu. Très peu différents les uns des autres. Combien de choses dans votre vie vous faites? Au moins essentiellement de la même façon que les autres. Prenez ces choses-là, n'est-ce pas ? Dormir, bouger, et manger, et toutes sortes de choses comme ça. Et jamais vous n'avez pas. Vous vous êtes questionné pour savoir pourquoi vous le faites comme ça et pas autrement. Vous ne pourriez pas le dire si moi je vous demandais pourquoi vous agissez de cette façon et pas de celle-là. Vous ne sauriez pas le dire, mais c'est tout simplement parce que vous êtes né dans certaines conditions et que c'est l'habitude dans ces conditions d'être comme ça. Autrement, si vous étiez né à une autre époque et dans d'autres conditions, vous feriez tout à fait différemment, sans même vous rendre compte de la différence. Ça vous paraîtrait tout à fait naturel. Par exemple, un tout petit exemple. Dans la plupart des pays d'Occident et même certains pays d'Orient, on coud comme ça, de droite à gauche. Au Japon, on coud comme ça, de gauche à droite. Eh bien, vous pensez que ça vous paraît tout à fait naturel de coudre de droite à gauche, n'est-ce pas? On vous a appris et puis vous ne réfléchissez pas, vous cousez comme ça. Vous arrivez au Japon, et puis, là, vous cousez devant eux, et ça les met fait rire. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de coudre comme ça. Mais c'est la même chose pour l'écriture, n'est-ce pas? Vous écrivez comme ça, de gauche à droite. Mais alors, il y a des gens qui écrivent comme ça, de haut en bas. Il y en a d'autres qui écrivent comme ça. Et ils le font de la façon la plus naturelle. Je ne parle pas de ceux qui ont étudié, réfléchi, qui ont comparé les écritures. Je ne parle pas des gens plus ou moins érudits. Je parle des gens tout à fait ordinaires. N'est-ce pas ? Et surtout des enfants qui font ce que ceux autour d'eux font tout à fait spontanément et sans questionner. Mais alors quand par un hasard de circonstances sont mis en présent, c'est pour eux une révélation formidable, n'est-ce pas, qu'on puisse faire autrement que comment ils font. Et ça, c'est des choses un peu simples, n'est-ce pas, je veux dire, qui vous frappent. Mais ça va jusque dans le moindre détail. Vous faites comme ça parce que l'endroit et le milieu dans lequel vous vivez fait comme ça. Et vous ne vous regardez pas faire. Au fond, l'origine était une. Et la création devait être multiple. Et ça a dû représenter un travail assez considérable pour que cette multiplicité soit consciente d'être multiple. Et si on regarde ça très attentivement, peut-être que si la création avait gardé le souvenir de son origine, elle ne serait jamais devenue une multiplicité diverse. Il y aurait eu au centre de chaque être le sens de l'unité parfaite, et la diversité peut-être ne se serait jamais exprimée. En perdant le souvenir de cette unité, alors a commencé la possibilité de devenir conscient des différences. Et quand on va dans l'inconscient, à l'autre bout, on retombe dans une sorte d'unité inconsciente d'elle-même, où la diversité est aussi inexprimée que dans l'origine. Aux deux bouts, il y a la même absence de diversité. Dans un cas, c'est par une suprême conscience d'unité. Dans l'autre cas, c'est par une parfaite inconscience et inexistence. Enfin, c'est ça que je veux dire. La fixité de la forme est le moyen par lequel l'individualité peut se former. Voilà.